On annonçait 19 degrés, on est rendu à 21, tant mieux. On fait juste vous rappeler la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de demain, on va changer d'univers. Bonjour. On s'en va dans le fret, on s'en va dans la pluie pour terminer la semaine et terminer le mois d'avril à partir de jeudi avec des maximums en descente. 11 degrés jeudi, 7 degrés vendredi 1er mai, samedi maximum de 8. Tout ça avec essentiellement de la pluie. Peut-être que vous êtes nombreux à essayer de revenir le plus tôt possible à la maison et on vous comprend. 418-971-1021. Comment ça va sur les routes, Mathias?
Bien, il est 16h, hein, fait que ça commence à être difficile. Henri IV, direction sud, pour l'accès au pont, ça remonte présentement jusqu'à Charest. Pour Duplessis, ça remonte jusqu'à la 40. On se transporte sur Capitale en direction est, présentement ralentissement entre Pierre-Bertrand et justement Henri IV. Capitale direction ouest, c'est dans le secteur de Laurentienne. Puis présentement, ça remonte un peu après Henri Bourassa. C'est au rouge dans le secteur. Charest direction est, à hauteur de Robert Bourassa. C'est un peu compliqué également. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021.
On regarde l'essentiel de l'actualité en ce mardi 28 avril.
D'abord, c'est le service de police de la Ville de Québec qui demande d'aide de la population et des médias. On veut localiser Ava Marie Turbide Hope, 23 ans. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est il y a deux jours de ça, donc le 26 avril, vers 23h30, dans le secteur de Sainte-Foy. C'est une jeune femme qui se déplace habituellement en autobus et pourrait se trouver dans plusieurs secteurs de la ville, selon ce que les policiers nous disent. Ses proches qui ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité si elle n'est pas localisée rapidement. Fait que, bien sûr, le 911 pour une intervention immédiate ou encore le 681 agir pour leur donner des infos qui seront traitées de manière confidentielle. Elle mesure 5 et 6, 120 livres, les cheveux longs, châtains, les yeux bruns. Elle a deux dents en moins à l'avant. Fait que, tu sais, on le signale parce que sur l'image que les policiers ont partagée, c'est quand même c'est significatif comme signe, on va le dire de cette manière-là. Elle porte des lunettes de vue avec armature noire et portait des bottes de travail noires à cap d'acier, un sac à main noir et blanc en forme de guitare. Fait que le sac à main est quand même assez, assez reconnaissable lui aussi. Dans les prochaines minutes, on va faire le dépôt de la mise à jour économique au fédéral. Déjà, il y avait François-Philippe Champagne et Mark Carney qui se sont présentés devant les médias en parlant d'une situation fiscale qui est solide. C'est que Mark Carney sous-entendait hier qu'on aurait de bonnes nouvelles pour les Canadiens. Est-ce que vraiment on a été capable d'aller chercher des revenus supplémentaires malgré toutes les annonces qui ont été faites?
On n'a plus besoin d'impôts? C'est ça les bonnes nouvelles?
Ça n'arrivera pas.
Ah bon, d'accord.
Ça n'arrivera pas. Mais il y a aussi tous les détails sur le fameux fonds souverain aussi qui vont se retrouver à l'intérieur de ça. Mais on avait l'air bien content.
Ça, c'est l'argent pour le camp du non, le fonds souverain?
Non, ça n'a rien à voir avec...
Ben voyons!
Non, mais plus tard cet après-midi, on va parler avec Francis Gosselin, docteur en économie. Il va expliquer à Denis c'est quoi un fonds souverain.
Oui, puis vu qu'on connaît bien Francis, ben j'ai pas besoin de dire « explique-moi comme un enfant de 5 ans ».
Il sait déjà.
Il prend pour acquis que je comprends fuck all.
Il prend déjà pour acquis que t'es un enfant de 5 ans.
Exact! Exact. Fait que si vous êtes dans votre char et que vous entendez parler de fonds souverains depuis deux jours, ben Francis va vous éclairer en même temps que moi.
Mais sur la mise à jour économique, est-ce que c'est rendu une stratégie des gouvernements d'annoncer un déficit trop élevé pour après ça arriver quelques mois après et dire « on a des bonnes nouvelles » parce
non.
que le gouvernement provincial a fait exactement la même chose.
Parce que les déficits sont quand même validés. Ceux qui sont annoncés là, sont validés par différents... institutions, si on veut, des experts. Fait que c'est pas juste une espèce de « Hey, on va être dans la marde », puis « Hey, finalement, on va être un peu moins dans la marde ». C'est pas de même que ça fonctionne. On aurait pu... Effectivement, ça aurait pu être une stratégie de communication, mais il faut pas oublier que les budgets sont vérifiés, sont validés. Fait que c'est pas juste le gouvernement qui écrit des chiffres pour faire beau puis pour projeter une image.
Fait qu'un peu comme au Québec, on avait... Parce qu'au Québec aussi, c'était ça, on avait sous-estimé les revenus qui allaient rentrer. Au final, c'est peut-être qu'on avait surestimé l'impact que les tarifs allaient avoir sur notre économie.
En fait, tu sais, on en prend une portion puis on extrapole pour la suite. Puis il y a encore des moments très difficiles. Comprenez-moi bien, là, il y a des entreprises qui souffrent, entre autres, de la guerre des tarifs. Mais pendant ce temps-là, tu sais, on essaie de développer autre chose ou encore on va être créatif. Des fois, c'est carrément les entreprises qui vont l'être pas mal plus que le gouvernement. Fait que ça permet de pallier. Il y a eu des entrées de revenus supplémentaires, là. Ce qui se passe avec États-Unis, Iran, Israël, mine de rien, les gouvernements en ont profité par la bande avec différentes taxes puis des éléments de ce genre-là. Fait qu'il y aura une partie qui sera ventilée un petit peu plus tard cet après-midi. Je vous parlais de demain pour ce qui est de la première ministre Christine Fréchette qui nous a dit sur ses médias sociaux « J'annoncerai une bonne nouvelle pour 75 000 PME des quatre coins du Québec. »
Ah, c'est le public cible de l'annonce de cette semaine. Les PME du Québec.
Tous les jours, il y a un public cible.
Ben oui.
On y va même pas aux semaines. C'est quand même assez... C'est, je sais pas qui a fait sa stratégie de communication. Puis je me suis posé la question... Si elle avait pas fait ça en douce quand elle s'est mise à se rendre compte que François Legault s'en irait, si chaque fois qu'il y avait une critique publique, elle s'est pas pris une petite note dans son cahier
pas,
en disant...
Elle avait pas besoin. Je veux dire, c'est exactement facile. La même gang en arrière. Le plan a été fait avec François Legault. Là.
Mais pourquoi ils l'ont pas mis en place avant?
Pour
saboter le parti?
Non, François Legault a essayé ses affaires à lui, mais les faiseux de parti puis les faiseux de gouvernement, tu votes pas pour, puis moi non plus. C'est toutes les mêmes qui sont autour de Mme Fréchette qui était autour de François Legault. Là.
Donc, l'annonce importante pour les PME, dont on a peu de détails à ce moment-ci, vous comprendrez, va se faire du côté de Beauceville demain matin. Elle va être accompagnée du ministre des Finances et ministre responsable des infrastructures, M. Éric Girard, du ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises, c'est M. Daniel Bernard, et du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal. Mais on n'a pas plus d'informations. Il y aura aussi un conseil des ministres qui va se tenir demain sur l'heure du dîner. Puis il y a une rencontre qui va se faire avec les différentes centrales des syndicats demain en fin de journée. Fait qu'encore une fois, une grosse journée.
Je trouve qu'on réagit pas beaucoup de la part des oppositions, puis je comprends qu'ils peuvent pas faire d'annonce parce que c'est pas le gouvernement, mais pourquoi, par exemple, Éric Duhaime annonce pas à chaque jour, une heure après, bon, la première affaire qu'on va faire, c'est vous dire pourquoi cette annonce-là est pas bonne pour le Québec, puis après ça, on vous dit, nous autres, qu'est-ce qu'on ferait différemment et qu'est-ce qu'on va faire? La contre-attaque est importante parce que présentement, il y a plusieurs analystes politiques, dont Véronique Bergeron, qui disent que tout le monde laisse le champ libre à Christine Fréchette puis qu'elle prend toute la place.
C'est comme si on ne l'avait pas vu venir qu'on s'en allait en élection à l'automne, alors qu'on a des élections à date fixe depuis quelques mandats déjà.
Il n'y a pas d'autres scénarios possibles.
Tu parlais du Parti conservateur du Québec. Le communiqué.
Je l'ai pris en exemple en passant. Oui. Là, ça pourrait être n'importe qui.
C'est parce qu'il y a un communiqué qui a été envoyé à 13h58. Le titre, « Réforme électorale, une manœuvre partisane inacceptable ». Pour les contribuables, c'est pas ça qui va les faire changer d'idée sur qui ils vont voter. Du côté du Parti libéral aujourd'hui, on a fait une annonce concernant la construction de logements. On veut rembourser jusqu'à 10 000 $ pour ce qui est des maisons neuves. C'est en train de passer dans le beurre parce que ce n'est pas un parti au pouvoir. Puis qu'actuellement, le parti au pouvoir, même de manière très brève, fait des annonces qui sont beaucoup plus tangibles puis où on peut mettre des affaires en marche.
Mais si vous n'êtes pas capable d'imposer votre horaire, bien, embarquez sur l'horaire, mais tabarnouche, réagissez à l'annonce, puis faites comme au poker, doublez la mise, montrez ce que vous pouvez faire de mieux ou de différent à chaque annonce de la première ministre.
Parce que là, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de plan, si vous attendez le début de la campagne électorale, vous allez vous faire dévorer. Pensez à ce qui s'est passé au municipal. On le fantôme de sa maman qui planait sur la campagne électorale municipale, puis ça a été long avant qu'il se présente pour de vrai, mais ça a été long même avant qu'il fasse des annonces. Puis attendez, la campagne est encore loin, je vais les faire en temps et lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé dans le tordeur.
Il avait enclenché ses annonces pendant les deux dernière semaine. Puis je vous rappelle que
votre anticipation,
c'est une semaine avant. Peut-être que c'est ça la stratégie au provincial aussi, de dire on veut pas brûler tout notre stock avant. Mais en même temps, là, c'est vrai, Christine Fréchette a le champ libre, puis c'est elle qui monopolise l'attention.
Savez-vous combien de temps ça prend passer de 2 % à gagner une élection? Un mois. Ça, c'est Régis Labeaume, la première campagne électorale municipale. Ça prend un mois partir à 2 % d'intention de vote et se rendre à gagner une élection. Pensez à ça, là, ceux qui pensent que la CAQ est morte et enterrée là, parce que la vieille gang s'en va et que présentement, ils pourrissent dans les sondages. On est tellement volage présentement au Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon dit le mot référendum une fois de trop dans une semaine, il perd 4 %. Le Parti libéral réussit à se taire pendant une semaine, il gagne 6 %. T'engages quelqu'un qui est connu chez Québec solidaire, il gagne 2-3 %. C'est de même, je veux dire, ça va super vite. Si vous laissez le champ libre à des annonces que le monde trouve pas trop pire à Christine Fréchette, dans un mois, elle peut mener les sondages au Québec.
C'est capoté parce que, tu sais, on recommence à travailler à l'Assemblée nationale le 5 mai. C'est dans une semaine, jour pour jour. C'est comme si toutes les parties d'opposition s'étaient dit « Ah, mais pendant ce temps-là, la CAQ fera rien ». Puis là, est en train de prendre de la place,
Véro, il y avait un budget pour ça. Il savait que la CAQ allait faire des annonces. Voyons donc, c'est la même CAQ. Il n'y a rien de nouveau, là. C'est les mêmes faiseux. C'est les mêmes écriveux. C'est les mêmes bâtisseux de campagne. Ça fait 8 ans qu'ils sont là, sont encore là. C'est les mêmes que Legault. Autre chose?
Le maire de Québec qui reprend officiellement du service demain, 13h30. On se souvient qu'il a ralenti ses activités, début de pneumonie. On lui a conseillé de prendre ça mollo. Il y a 2 missions économiques auxquelles il n'a finalement pas participé. C'est du côté de la Croatie et du côté de l'Espagne. Il n'était pas au dernier conseil municipal non plus. Mais demain, en début d'après-midi, il y aura donc un point de presse du maire pour répondre à différents sujets d'actualité, à des questions touchant différents sujets d'actualité. J'imagine que Mathias, tu allais faire ton tour. T'ennuyais-tu du maire?
Oui, bien...
C'est plus tranquille quand tu fais pas des points de presse?
Oui, je m'ennuyais du maire dans le sens la mairesse suppléante. Est un peu plus ennuyant.
Ben là, c'est normal. Ça, là, hein? On sait que c'est pas elle qui a les cordons.
Ben c'est ça, on pose une question puis on a plus ou moins une réponse. On va réagir sur ça au cours des prochaines semaines. Au moins, on peut lancer ben des tomates à Bruno Marchand, mais au moins quand on pose une question, habituellement, on a une réponse.
Allez-vous l'amener sur l'effet négatif terrible qu'on va subir à Québec, étant donné qu'il ne s'est pas présenté dans les 2 dernières missions économiques?
Le ressac.
Parce qu'avant de partir, il nous a dit que la présence, c'était super important, puis que ça amenait des retombées, puis ci, puis ça. Fait que j'imagine que c'est un désastre pour la ville qu'il ne se soit pas présenté à ces missions économiques-là.
Je vais pouvoir y poser la question pour toi.
Essaye de ne pas le faire pleurer. Même si c'est dur pour Québec, essaye de ne pas trop le faire pleurer.
Pendant ce temps-là, du côté de Washington, Donald Trump avait de la grande visite. Il a fait des courbettes devant le roi Charles. C'était tout un étalage qu'on a montré un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Mon Dieu, Seigneur.
21 coups de canon. Pour souligner son arrivée à la Maison-Blanche. C'est absolument hallucinant ce qui s'est déroulé là. Alors qu'on a reparti la guerre avec ABC, avec Disney, propriétaire de ABC. On s'en parlait hier alors que la Première Dame et le président américain appelaient à la mise à pied de Jimmy Kimmel parce que vendredi, la veille de la fusillade qui a eu lieu lors du dîner des correspondants, il a fait une joke en onde avec un faux vidéo comme s'il était au dîner des correspondants en saluant Melania, en saluant le fils de Donald Trump, Barron, en disant « Melania, tu glos comme une future veuve. » Et là, on s'est mis à dire, avec des propos comme ceux-là, ça encourage la violence, etc., etc., alors que le gars était déjà en route.
C'était une joke sur le fait que Donald Trump est vieux et sénile, ce qui est incontestable aux yeux de quiconque a plus qu'un jaune d'œuf crevé entre les deux oreilles. C'est terrible ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Là, c'est... Imaginez-vous que le CRTC est mené par Justin Trudeau pendant que Mark Carney est premier ministre. C'est ce qui se passe aux États-Unis présentement. Il a mis une mitaine à Trump. Faut que ce soit une mitaine en sac à remouille, là, parce qu'il y en a beaucoup de mitaines qui sont parties, là. Parce que même eux autres étaient plus capables de le supporter, le gros niaiseux, là. Tu sais, il est tellement sénile, il est tellement dangereux. Maintenant, tu veux pas être emporté avec le ressac de tout ça, là. Il y en a beaucoup. Ceux qui sont brillants un peu, ça fait longtemps qu'ils ont fait leur valise. Ceux qui restent, pas capables de se faire des toasts tout seuls, là.
Alors que là, ce qui est mentionné, c'est que la Commission fédérale des communications pourrait soumettre les licences de Disney.
Parce que Trump
oui.
invente un narratif qui est complètement faux sur un faiseux de blagues de fin de soirée à un réseau de télévision. On oblige le renouvellement des licences 2 ans d'avance et les dés sont déjà joués. Ils savent. ABC doit mettre dehors des conteux de jokes pour faire plaisir au président. Sans ça, ils n'auront pas leur renouvellement de licence. C'est complètement dégueulasse. C'est comme si Renaud Lavoie, c'est un mauvais parallèle.
Très mauvais parallèle.
C'est comme si Renaud Lavoie réussissait à avoir la peau de faux intellectuels de bas étage à Radio-Canada à qui les gens qui font rire d'eux autres donnent beaucoup trop d'importance. Je maintiens mon message de la semaine passée. Je sais que ça a fait fâcher. Audrey est tellement fâchée, ça fait 2 jours qu'elle vient plus. Arrêtez de les écouter. Faites votre job. C'est pas grave de faire rire de vous autres. Vous faites rire de vous autres parce qu'à chaque soir que le Canadien joue, il y a 2 millions de personnes qui sont avec vous autres. C'est sûr que quand t'es 25 autour d'une table à t'écouter parler tout seul à Radio-Canada un après-midi, ça se peut que tu sois jaloux un petit peu. La seule fois que t'es sorti de ton cocon, tu t'es tellement fait huer à Québec que t'as jamais remis les pieds là. Puis t'as plus jamais fait de contenu humoristique original parce que t'es pas capable. Fait que tu ris des autres parce que c'est tout ce que t'es capable de faire. On est tous capables de rire des autres. On le fait. Vous le faites, nous. Mais on fait pas juste ça. C'est pas notre carrière. Puis on n'est pas 26 autour d'une table à s'écouter parler. C'est comme si Renaud Lavoie avait la peau de Jean à Radio-Canada. Mais Renaud Lavoie n'est pas premier ministre. Le président des États-Unis, qui n'aime pas un humoriste, va-t-il réussir à faire fermer un des plus gros réseaux d'Amérique du Nord?
Il y avait eu la suspension de Jimmy Kimmel qui est arrivée un petit peu plus tôt l'année passée suite au décès de Charlie Kirk. Puis il y avait eu différents propos qui avaient été tenus. Puis ça avait fini par s'amoindrir puis il était revenu en ondes. Il s'était expliqué, s'était exprimé en fait. Si éventuellement il y a la peau de Jimmy Kimmel, je pense que ce qui risque de se créer suite à ça va être incontrôlable pour le président américain.
Ah non, mais
il y a une diversité de plateformes maintenant qui permettent de se rendre à peu près n'importe où.
On tombe dans une dérive. Dans le sens, on est déjà dans une dérive, mais il y a différentes étapes.
Donald Trump est président, on est d'une dérive.
Non, mais il y a différentes étapes à ça quand même. Puis ça, s'il réussit à retirer quelqu'un des ondes ou tout simplement faire fermer un réseau à cause de ça, on vient de passer une étape importante dans cette dérive-là.
Tu sais, il y en a eu des dérives historiquement. Il y a des gens qui ont dit, après la tuerie de la mosquée à Québec, que les radios avaient du sang sur les mains. Puis ce gars-là, ben, il y a des radios qui ont continué de le payer comme chroniqueur. Ça dépassait l'entendement de plusieurs. Même un juge a dû s'interposer dans un procès pour dire que c'était de l'hérésie totale. Je ne veux pas dire que les radios sont toutes brillantes à Québec ou qu'on est plus brillant ou n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Mais ce que le président Trump sous-entend, c'est que Jimmy Kimmel a appelé à tuer le président, puis qu'il y a un tweet qui s'est levé, il a entendu Kimmel, il est allé chercher des guns, puis il est allé courir en faisant l'hélicoptère au souper
des correspondants.
Puis il y a du monde qui pense que le président a raison.
Pas juste un peu de personnes, c'est presque 30% des États-Unis qui, selon moi, 30-35, qui regardent ce que le président dit puis dit « Ah oh oui, c'est de la faute à Kimmel. »
Kimmel, vas-tu finir en prison, coudon?
Il risque de se retrouver peut-être sans micro éventuellement, mais comme je te dis, ça risque de déclencher quand même un certain mouvement.
J'espère. Moi, je pensais que la vague allait partir la dernière fois qu'on a vu ces conneries-là.
Mais ça s'est résorbé quand il est revenu, non?
Oui, mais je trouve qu'on va très, très loin, puis ça devrait concerner tout le monde, ce genre de choses-là.
Bon, on est en train de présenter différents détails. C'est le discours en chambre pour la mise à jour économique au fédéral. Le déficit du gouvernement pour l'année 2024-2025, donc nettement moins élevé qu'anticipé. On réduit la prévision pour l'année qui s'en vient de 11,5 milliards de dollars. Sinon, parmi les mesures, il y a des mesures pour les travailleurs qui ont été annoncées parce que, bon, on a plusieurs projets d'infrastructure d'envergure nationale. Il y a de l'argent donc aussi pour ceux qui vont se faire former, pour les apprentis. 2 milliards sur 5 ans pour bonifier les programmes de formation. On ne détaille pas. Tu sais, on s'est parlé. On a mentionné le fonds souverain, on va s'en parler un petit peu plus tard, mais on n'a pas nécessairement plus de détails de ce qui va se retrouver à l'intérieur de ça. Quand on a eu les Jeux de Milan-Cortina, il y avait eu des critiques par rapport aux investissements du gouvernement canadien dans les sports. Il y a une partie qui se retrouve là-dedans. L'aide aux médias, on était censé pouvoir la chiffrer, ça n'a pas été fait. Plusieurs des mesures qui semblent se retrouver dans la mise à jour économique, c'est des mesures qui avaient déjà été annoncées, mais qu'on n'avait pas chiffrées parce que c'était entre le budget et justement la mise à jour. Fait qu'il n'y a rien de bien gros, là. Le délai de grâce pour le régime d'accès à la propriété a été augmenté de 5 ans. Fait que ceux qui vont rapper, les premiers acheteurs, souvent, n'auront pas besoin de commencer à rembourser plus tôt que ça. Fait qu'on ça continue à sortir au moment où on se parle.
Merci. Il est 4h11. On fait une courte pause. Et au retour, si vous stressez avec vos enfants sur les réseaux sociaux, ouais, je ne vais pas être là pour vous rassurer pantoute. Gravel. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour 15h, ou plutôt 16h, 17h. On tripe comme des malades, là. C'est la mise à jour économique du côté du gouvernement fédéral. C'est la plus belle journée de ma vie, possiblement. N'est-ce pas, Véro?
Oh, oh oui, vraiment, c'est ça que tu me disais pendant la pause.
Oui, à
la
quel point je...
La naissance de mes enfants, c'est rien pas tout par rapport à un énoncé économique.
C'est exactement ce que je disais.
Avec ce ton-là. Là.
On trippe comme des malades. Ennuagement qui est en train de se dérouler sous nos yeux, plus ou moins ébahis. Maximum de 19 degrés qui a été battu. On a 21 présentement à Québec. Des nuages pour ce soir et cette nuit. Ça reste un peu venteux avec un minimum de 7 degrés. Demain, généralement nuageux, 40 % de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 17. Jeudi, de la pluie, max de 11. Vendredi, de la pluie, max de 7. Et samedi, de la pluie, maximum de 8. C'est Gravel dans le retour pour nous rejoindre par texto. C'est le 418-971-1021 par téléphone. Le 418-780-1021. Pour ceux qui capotent vraiment avec la mise à jour économique, on parle avec Francis Gosselin, docteur ou directeur en économie, selon mes problèmes de conjugaison. On va lui parler aux environs de 16h30. Et tant qu'à parler de chiffres et de finances, ben Alex Leblond, planificateur financier, vient nous parler aux environs de 17h sur tout le dossier des retraites qui a été éventé dans le Journal de Québec en fin de semaine. J'ai hâte d'entendre Alex Leblond là-dessus. Véro est là, Audrey sera de retour éventuellement dans les prochains jours. Pas de panique au village. Mathias est là pour la circulation, entre autres. On est là.
Oui, Henri-IV, direction sud, présentement, gros ralentissement. Là, ça remonte jusqu'à Charest pour l'accès au pont Pierre-Laporte. Du côté du Plessis, ça remonte présentement jusqu'à la 40. On se transporte sur Capitale. En direction est, c'est présentement entre Henri-Bourassa et boulevard de Lormière que c'est plus difficile. Côté ouest, c'est présentement entre Laurentienne et un peu après Henri-Bourassa. C'est au rouge. Robert Bourassa, direction nord, évidemment, pour prendre Capitale. C'est difficile à cette heure-ci. Charest, direction est, dans le secteur de Robert Bourassa, léger ralentissement à prévoir. Boulevard Laurier, dans le secteur du centre d'achat, également à noter, parce que, bien sûr, c'est une voie de chaque côté. Et je termine avec route de la Bravoure en direction de la base militaire, en direction de Shannon, en direction nord, ralentissement également. Puis pour nos amis de la rive sud sur la 20, en direction ouest, c'est présentement entre Chemin des Îles et Président Kennedy. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe au 418-971-1021.
En une vingtaine de secondes, Véro, y a-tu des choses qu'on doit savoir sur la mise à jour économique?
On fait des investissements pour aider les projets d'infrastructure, tu sais, bâtir maison Canada, tu te souviens
oui,
de
ben,
cela?
Oui, comment l'oublier?
Fait qu'il y a des investissements de ce côté-là pour des programmes de formation, entre autres, pour donner un certain revenu supplémentaire par semaine aux apprentis. On a aussi un démontant pour tout ce qui est le financement du sport canadien. Ça avait été des critiques qui étaient assez acerbes au moment des Jeux olympiques de Milan-Cortina, parce qu'on avait en plus le bilan du Canada, fait que ça a permis de pointer du doigt le recul qu'on pouvait avoir par rapport à différentes autres nations. Pas de détails sur tout ce qui sera les nuances à l'intérieur du fonds souverain, non plus rien pour l'aide aux médias. Puis les autres, c'est des confirmations d'annonces qui avaient déjà été faites au courant des derniers mois. Mais je reste à l'affût s'il y a quoi que ce soit d'autre.
On sait qu'on est à la merci des algorithmes quand on va sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où on le sait, on peut les faire travailler en notre faveur. Puis c'est ce que j'ai fait avec ma chaîne YouTube dans les dernières semaines.
Tu l'as groomé comme on taille un caniche?
Oui, ça ressemble à ça pas mal. C'est juste que je suis tombé sur quelques sites qui présentent beaucoup de mini-documentaires. Tu sais, des mini-documentaires entre 10 et 30 minutes mm-hmm. sur des sujets historiques, des sujets d'actualité internationale. Tu sais, j'ai rajouté les archives de Radio-Canada, j'ai rajouté certaines sections de Télé-Québec aussi là-dessus. Puis à partir du moment où tu rajoutes des choses, bien là, soudainement, on te propose mm-hmm. d'autres choses, d'autres chaînes, d'autres reportages.
Moi, ce n'est que des concerts, mettons. C'est beaucoup ouais, de prestations live. Fait que moi, quand je l'ouvre, c'est ce qu'on va me proposer.
C'était comme ça que je m'en servais avant. Mais là, j'ai remarqué que moi puis les gars, on avait une passion commune pour les documentaires.
Oh.
Puis ça fait une couple de fois que je vois que l'attention des gars est captivée quand on va regarder un documentaire, quel que soit le sujet. Tu sais, on a regardé un documentaire sur le Titanic. Mm-hmm. Hier soir, on se promenait sur la chaîne YouTube. C'est des belles choses qu'on peut faire en famille maintenant que les cellulaires sont suspendus, mais ça, c'est une autre histoire. Et je suis tombé sur un mini-documentaire. On visitait la centrale Tchernobyl.
Puis on montrait, la semaine dernière.
On montrait tout le processus que tu dois accomplir pour défier les radiations puis pas devenir contaminé. 40 ans après la catastrophe. Puis c'est ça, je disais à mon grand, tu sais, il y a une bonne mini-série qui a été faite là-dessus, si ça t'intéresse, puis on peut la regarder ensemble, et ainsi de suite. Puis après ça, je cherchais d'autres documentaires sur divers sujets, et j'ai vu passer le documentaire qui a pour titre « Ce robot a scrollé TikTok, voici où l'algorithme l'a emmené ». C'est un reportage, un documentaire qui a été fait par la chaîne West France, un documentaire qui dure 23 minutes au total. Puis je vais vous expliquer le processus, mais d'abord, je vais vous faire entendre le début du documentaire. Puis ça a été un drôle de hasard parce que ces temps-ci, il y a comme un enjeu à la maison avec Snapchat. Je veux parler avec mes amis sur Snapchat. Snapchat, c'est pas dangereux. À l'école, tout le monde l'a, puis ainsi de suite. Puis c'est dur pour un parent de se battre contre ça, mm-hmm. parce que technologiquement, ils sont meilleurs que nous autres.
Absolument.
Et quand j'ai entendu la prémisse de base de ce documentaire-là, je me suis dit, « Hey, tabarnouche, on va l'écouter au complet avec les gars. J'étais-tu content qu'il n'y ait pas de game du Canadien hier? » Sans ça, on était fait. Mais la brèche était disponible. Puis j'essaye d'être un parent responsable. Fait que je l'ai saisi. Je vous fais entendre le début du reportage. Puis après ça, je vous raconte c'est quoi l'expérience qu'ils ont faite du côté de West France avec TikTok.
Septembre 2021, à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Marie, 15 ans, met fin à ses jours. Après sa mort, sa mère fait ce que beaucoup de parents font dans ces moments-là. Elle cherche une explication. Alors, elle ouvre le téléphone de sa fille et très vite, elle tombe sur TikTok. Mais pas le TikTok qu'on imagine quand on pense à une adolescente de 15 ans. Pas de danse, pas de challenge, pas de blague. À la place, une succession presque infinie de vidéos sur le mal-être, la dépression, l'automutilation, le suicide. Des vidéos qui ressemblent parfois à des modes d'emploi.
C'était beaucoup de la glamourisation du suicide. Un côté très fun du suicide, avec des chansons, des lip-syncing de chansons, etc.
Ce que la mère de Marie a découvert, d'autres l'ont vu défiler sur leurs écrans. C'est le cas de Maëlle. À 14 ans, alors qu'elle reçoit son premier téléphone, elle installe l'application TikTok. Au début, l'algorithme lui propose des vidéos drôles, anodines. Puis son fil de publication devient saturé de contenu dépressif.
De fil en aiguille, c'est parti dans des concours de qui allait le plus mal, de quoi faire, des tips, aussi des phrases culpabilisantes du style « si tu fais une tentative de suicide mais que t'es pas en réanimation, ça compte pas ».
Depuis, une question obsède les victimes et leurs familles. Comment une adolescente peut-elle se retrouver enfermée dans ce type de contenu simplement en regardant des vidéos?
Donc, on part de cette prémisse-là. Ça va, les amis?
Hey, mais mon Dieu! Ben non, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a des choses, beaucoup de choses qu'il y a sur les réseaux sociaux que tu n'aurais pas le réflexe de dire hey, « il doit y avoir beaucoup
ça
de contenu
existe,
sur ça
ouais. ».
C'est ça. Moi, j'entends ça, puis dans ma tête, il n'y aurait pas eu multitude de contenus sur TikTok qui mettaient de l'avant le suicide comme une chose le fun. Ça vient comme me chercher, parce que c'est pas ça que j'ai sur mes réseaux sociaux.
Je sais pas si vous l'avez bien entendu, parce que c'est du français de France, mais on parle de glamourisation du suicide.
Ouais,
ça veut dire que le suicide, c'est cool, puis t'as pas fait une vraie tentative si tu t'es pas ramassé à l'hôpital. Puis ça, c'est du contenu, normalement, qui est pas légal. Que Snapchat devrait contrôler, mais ils ne le font pas. Et c'est prouvé dans l'expérience journalistique que très rapidement, un ado ou même un adulte qui a une mauvaise journée peut transformer son algorithme personnel de TikTok en cercle de dépression dans lequel tu ne peux pas t'en sortir.
Non, puis tu ne vois que ça, là. Tu ne vois plus les vidéos de danse, tu ne vois plus rien d'autre, là.
Fait que le journaliste de West France, avec son équipe, ont conçu un vidéo. Pas un vidéo, mais un robot. Le robot a créé 5 personnalités distinctes, 5 profils distincts sur TikTok pour essayer de faire des expériences. Le premier profil, c'est quelqu'un qui tripe sa bouffe, OK? Les règles du robot, c'est... Tu vois du contenu pas relié à de la bouffe, tu swipes, tu skips, tu tasses, tu lis pas.
Tu prends pas le temps de regarder.
Non, c'est le plus rapidement possible. C'est fait de façon mathématique, c'est fait de façon calculée. Si tu vois une vidéo avec la bouffe, oh, ça t'intéresse. Tu la regardes 2 fois, puis tu le likes. Ça, c'est les instructions. À partir de ce moment-là, de la façon que TikTok fonctionne, et il nous le montre très bien au début, il te bombarde de n'importe quoi, là. Un petit minou qui danse, un beau but au hockey, un arrêt au soccer, whoop! Une vidéo d'une recette de cheeseburger, là, whoop! Là, le robot, il arrête, il regarde la vidéo deux fois, il like, il passe à autre chose. En l'espace de quelques heures, l'algorithme fait en sorte que tout ce que tu vois sur ton profil, c'est des vidéos de bouffe. On a éliminé le reste.
C'est pas long, là. Fait qu'en dedans d'une journée, tu peux complètement changer ce que tu vois sur tes réseaux sociaux.
Exact. Expérience numéro 2, on y va avec un autre sujet anodin. On prend le maquillage. Le maquillage, ben c'est des trucs de maquillage, des trucs pour comment se coiffer, puis ainsi de suite. L'expérience se déroule à peu près de la même façon, mais une fois de temps en temps, on remarque que dans les vidéos de maquillage, parfois, on parle de maigreur. Puis là, il y a une brèche qui s'installe concernant des filles d'une maigreur extrême qui se rendent malades. Puis à partir de ce moment-là, tu peux prendre cette branche-là. Ils ne l'ont pas faite parce que lui, son personnage robotisé, c'était « moi, mon focus ». Ça reste le maquillage.
Alors qu'un être humain avec une faille, une fragilité de ce côté-là pour aller le chercher.
Ce que j'expliquais aux enfants hier, c'est que souvent, ce qui va nous arrêter quand on est dans une routine, c'est ce qui nous dérange le plus et ce qui nous choque le plus. Puis je leur racontais qu'en fin de semaine, j'ai tout fucké mon compte Twitter parce que j'ai lu une théorie sur le fait que le président, la tentative d'assassinat, c'était pas vrai. Mais c'est pas parce que ça m'intéressait, c'est que je trouvais ça tellement grotesque que j'ai pris le temps de le lire. Ben à cause de ça, pendant deux jours...
T'as de la conspiration sur ton fil.
Tout ce que j'ai eu sur Twitter, c'est des théories conspirationnistes.
Il y en a pas pire.
Le troisième profil, on prend un profil où quelqu'un trippe sur les théories masculinistes. Mais tu sais, pas heavy metal.
Oui.
Mais... De la façon que
c'est
ça fonctionne.
C'est une curiosité, mettons. Là.
Oui. Le problème est le suivant. C'est que l'algorithme va fonctionner exactement de la même façon. Mais vu que tu pars avec un sujet qui est un peu plus controversé et politisé, ben tu vas t'en aller de la même façon que la personne qui trippe sur le maquillage s'en va vers du maquillage, puis du maquillage, puis du maquillage. Mais toi, parce que tu trippes, mettons, sur les théories masculinistes, ben plus t'en écoutes, plus ça devient éveillé, plus ça devient des discours de plus en plus débiles. Et tu te retrouves à un moment donné avec juste des vidéos d'extrémistes qui disent des choses là, qui sont pas racontables.
Il n'y a plus aucune nuance.
T'es encore dans les pans légaux de TikTok. Mais c'est quand même... Je trouvais ça intéressant de le dénoncer. Quelqu'un... qui commence à écouter des vidéos d'ados qui sont tristes, peut se rendre bien, bien bas là-dedans, là, avec des gens qui se montrent leurs cicatrices d'automutilation, puis ce genre de choses-là, où on glorifie le suicide, puis on peut se retrouver dans une couche de vidéos qu'on va qualifier d'illégales. Je les qualifie d'illégales parce que selon les lois de la France, c'est pas légal, et selon le code de conduite de TikTok, c'est pas légal.
Ça devrait pas pouvoir se retrouver sur cette plateforme-là.
Pourtant, en l'espace de quelques heures, tu peux prendre un algorithme bien simple et faire en sorte que tout ce que tu as sur TikTok, c'est des vidéos qui sont pas supposées d'être là et qui sont supposées d'être complètement illégaux, mais qui sont là quand même. Tu peux te retrouver avec de la pédocriminalité.
Hey my God.
Avec des liens pour aller ailleurs si tu en as besoin de plus. Des trucs qui sont créés par l'intelligence artificielle des fois. D'autres fois, c'est des trucs qui semblent partir de vidéos véritables. Et des fois, puis ça c'est terrible, c'est l'aftermath terrible, des parents... qui sont sur TikTok et qui savent pas trop comment ça marche, puis qui décident de filmer leur enfant qui court en bédaine, en maillot de bain, dans la cour arrière, ben vous allez vous retrouver sur ce fil-là parce qu'il y a quelqu'un qui cherche des enfants en bédaine.
C'est terrible.
C'est dégueulasse.
TikTok a été confronté aux découvertes des journalistes. Les ministres en place en France aussi, on leur a montré les vidéos qu'on a réussi à trouver, où entre autres, on glorifie le suicide. Mais la France a un petit peu d'avance.
Oui, mais les plateformes font jamais rien.
C'est ce qui est le plus dégueulasse là-dedans. Puis la plateforme se défend en disant il y a 99,1% du matériel illégal qu'on est capable d'enlever. Et dans ce que vous nous avez montré, ben on a tout enlevé, puis le journaliste est retourné vérifier, puis a retrouvé la majeure partie des vidéos qui étaient supposées d'être parties.
Je veux dire, là, en plus, ces grosses plateformes, ils disent « Ah, on enlève la majorité de notre stock illégal, on l'enlève, mais après ça, leur algorithme fait en sorte que la majorité... » Tu peux te retrouver avec presque que du stock illégal.
Ouais.
Je veux dire, il y a un problème d'algorithme aussi.
Ben, c'est que on te donne tellement ce que tu veux qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de t'en sortir. Puis, tu sais, on ne se cachera pas qu'en gêne de poitrine, si c'est devenu un phénomène international, c'est qu'ils ont fucké l'algorithme.
Ben oui, exactement.
Tu sais, puis c'est à
les
leur avantage.
Les gens qui étaient un peu curieux, en fait, qu'il y en a eu plein, puis c'est devenu encore plus viral. Là.
Oui, on l'a vu, le phénomène. On l'a vu sur quelque chose d'inoffensif et de relativement positif. Mais faut penser que ça fait la même chose pour des choses négatives. Puis moi, j'ai écouté une partie du documentaire avec mon plus jeune, puis tout le documentaire avec mon plus grand. Puis ça fait partie de la conversation que j'ai eue avec eux autres après. Tu sais, une journée que t'es fâché contre papa, là, mm-hmm. puis que tu décides d'aller voir des vidéos d'ados qui sont fâchés contre le papa, là. Ben, parce que moi, mon gars me disait, ben moi, je veux juste regarder des top nets, là. Tu sais, je veux juste regarder des beaux buts, puis des snaps, puis j'ai dit, je comprends. Mais ce qui t'explique, c'est à quel point ils peuvent prendre ça.
Profiter d'un moment.
Ils peuvent le retourner contre toi. Puis je prenais l'exemple. Tu sais, à un moment donné, là, t'as rien que ça, là, des vidéos de beaux buts. Là, mais t'es toutes vues. Puis tu sais, tu passes d'un à l'autre. Puis whoop! À un moment donné, là, c'est une mise en échec qui donne une commotion cérébrale. Puis le gars se relève pas. Puis là, tu vois cette vidéo-là, puis ça te saisit. Mais là, parce que ça t'a saisi, tu l'as regardé plus longtemps que les autres.
Ou tu l'as peut-être réécouté une autre fois.
Puis là, whoop! Là, tu vas voir des vidéos de mise en échec illégale, tu vas voir des vidéos de bagarre, tu vas voir la vidéo du patin de Clint Mallard-Chuck, puis là, tu vas te ramasser dans d'autres choses, puis dans d'autres choses, puis dans d'autres choses. Puis le but, en passant, c'est pas de vous faire peur avec ça. Si vous voulez le documentaire, je pense qu'on a placé le lien sur le Facebook de Boulevard.
Oui, il est censé être dans nos stories, je vais aller vérifier. Là,
fait mais... que c'est sur YouTube, mais passez par le Facebook de Boulevard, vous avez le lien directement. Le but, c'est pas de faire peur au monde, c'est juste de regarder les choses pour ce qu'elles sont, puis d'avoir des conversations le plus matures possible, peut-être, avec nos enfants.
Oui, vous allez dans les stories, vous allez voir Denis qui vous fait une petite prémisse, puis vous allez avoir le lien pour regarder le documentaire. Moi, c'est dans ma liste pour ce soir.
Mais okay. C'est aussi de se souvenir qu'on a un certain contrôle sur ça, là. Moi, je sais pas si c'est moi qui a ce réflexe-là. Ouais, oui, c'est ça.
T'es un adulte, puis t'as des intérêts variés, mais tu vas bien, quelqu'un qui va pas bien, il n'y a plus
exact,
de contrôle
c'est
là-dessus.
Ça. Non,
là.
Effectivement, parce que je vois des vidéos, sur mon, par exemple, sur différents réseaux sociaux. Si je suis tanné de voir une branche de vidéo, ben je vais arrêter de les écouter parce que je sais que sinon, ils vont m'en remettre. Fait que je vais juste les passer tout de suite.
On commence à saisir le fonctionnement, mais je pense que c'est important d'en parler avec nos enfants, parce que nos enfants sont convaincus que ça peut pas arriver. Je fais rien de mal, donc il arrivera rien de mal. Puis moi, je suis là-dedans présentement. J'étais content qu'on tombe là-dessus par hasard hier, puis je me disais, ça peut aider d'autres parents avec des ados.
C'est le principe de la secte.
Oui, exact. Puis je sais qu'il faut aller à la pause. Là, Francis nous attend. Là, mais juste vous le redire, le reportage de West France, on l'a mis sur nos réseaux sociaux, Boulevard 102.1. Vous allez vous rendre. C'est disponible sur YouTube. Courte pause, on revient avec Francis Gosselin.
Pour joindre l'équipe de Gravel.
Appeler une femme.
Marnac, Denis. C'est correct?
Gravel dans le retour. Un show d'extrême depuis des années. D'extrême centre.
À 16h42, Mathias, sur les routes.
Yes, je commence avec un incident sur Capitale direction ouest à hauteur de Première Avenue. C'est la voie de gauche qui est présentement partiellement bloquée, puis ça crée un ralentissement dans le secteur, bien sûr, qui remonte un peu après Bourg-Royal au moment où je vous parle. Également, Robert Bourassa en direction sud, à hauteur de Versant Nord. La voie de droite qui est bloquée, on a une panne présentement. Pour l'instant, ça circule bien pareil. Capitale direction ouest, gros ralentissement entre Pierre-Bertrand. Ça remonte jusqu'à Henri IV présentement. Capitale en direction ouest, ça se passe plutôt bien, là, juste un petit ralentissement à hauteur de Laurentienne. L'accès au pont, bien sûr, c'est difficile à cette heure-ci. Henri IV en direction sud, ça remonte présentement jusqu'à Charest. Même chose pour Duplessis qui remonte jusqu'à la 40. Charest direction est à hauteur de Robert Bourassa, légèrement au rouge. Henri IV direction sud à hauteur de Capitale, c'est un peu difficile également. Et je termine sur la rive sud, sur la en direction ouest, ça se passe présentement. Entre, je dirais, Taniata, puis ça remonte jusqu'à Kennedy, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021.
Vous le lisez dans le Journal de Québec, vous le voyez à l'antenne de LCN TVA. Et si vous êtes à Montréal, dans le secteur, ben il y a Cube Radio également. Francis Gosselin, docteur en économie. Docteur Gosselin, bonjour.
Bonjour, cher patient de l'économie.
Oui, je suis un patient qui est atteint d'une grave fièvre de la méconnaissance de l'économie. J'ai besoin de vos lanternes. D'abord, Francis, peut-être regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour nous autres dans la mise à jour économique du gouvernement Carney.
Ben oui, ça vient tout juste d'être déposé il y a quelques minutes, à moins d'une heure, là, par François-Philippe Champagne. Donc, écoute, je te dirais, bon, déjà, contexte, ça sera pas... depuis que M. Carney est au pouvoir, on a changé la date où on publie les budgets. Les budgets sont maintenant à l'automne. Mm-hmm. Donc là, on a au printemps une mise à jour. C'est-à-dire, c'est comme la mi-année, si vous voulez. Donc, c'est effectivement un exercice là, de mi-parcours pour le budget. Sachant, par contre, que ça fait un an que M. Carney est au pouvoir. Donc, tu sais, juste pour remettre les choses. Et donc, aujourd'hui, je te dirais que cet exercice-là, tu sais, contrairement à ce que Justin Trudeau nous avait habitué avec plein de nouvelles affaires qui coûtaient beaucoup d'argent, évidemment, à la Justin, il y a peu de grandes nouvelles orientations dans cette mise à jour économique-là, ce qui fait que même, en fait, on apprend aujourd'hui que le déficit, qui devait être très élevé là, à 78 milliards et des pépettes, est en fait beaucoup moindre. Là, j'en ai parlé plus tôt.
Au lieu d'être très élevé, il est juste élevé, c'est ça?
Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une différence de 11 milliards, Véro, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Là, comme moi, j'en ai parlé à LCN plutôt cette semaine, je dis, à mon avis, ça va être un 4-5 milliards de différence. Donc, tu sais, d'apprendre ça, là, 11 milliards, c'est pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça s'explique surtout par des revenus qui sont plus importants que prévu parce que l'économie, même si elle va pas super bien, va mieux que dans le scénario un peu pessimiste qu'on avait envisagé l'année dernière. Évidemment, toujours avec cette incertitude là, liée à Trump, les tarifs, tu sais, le chaos mondial là, qu'on vit actuellement.
Comment on a réussi à se rattraper? Comment on a réussi à faire en sorte que ce soit...
Les mesures,
ouais, ou le scénario qu'on avait était juste trop alarmiste par rapport à la guerre des tarifs.
C'est plus ça, effectivement, Denis. Rappelons-nous, il y a un an, là, on venait de passer le jour de la libération. Là, c'était vraiment le bordel. Là, on ne savait pas s'il allait pas y avoir la fin du commerce avec les Américains. Alors que oui, il y a des industries qui ont mal, le bois d'œuvre notamment. Certains manufacturiers là, qui nous écoutent sûrement là, en Beauce, là, puis tu sais, dans la Chaudière-Appalaches, là, mais puis je veux pas minimiser ça, mais dans l'ensemble, l'économie canadienne a très bien résisté, que ce soit les secteurs de l'énergie, que ce soit même l'aluminium, tu sais, ultimement, ça a changé presque rien là, aux quantités qu'on exporte. C'est les Américains qui payent les tarifs finalement. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, bref, notre économie n'a pas fait de croissance tellement, mais au moins elle a assez maintenu. Puis ça fait que ben, le gouvernement a des revenus additionnels. Il y a aussi des revenus là, des derniers deux mois, là, un peu liés à l'explosion du prix de l'énergie, là, du pétrole notamment. Mais ça, c'est un peu récent, fait que ça fait pas une grosse différence. Mais à terme, ça pourrait avoir un impact aussi positif là, sur les comptes nationaux.
Francis, on a beaucoup parlé du fonds souverain dans les derniers jours. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de détails supplémentaires aujourd'hui, mais c'est quoi un fonds souverain? À quoi ça sert? C'est-tu juste une nouvelle bébelle qu'on essaie de faire trender? Parce qu'on aime ça, hein, les nouvelles expressions, puis les nouvelles affaires, puis tout, puis tout. Je sais que ça a été fait ailleurs, mais peux-tu nous expliquer ça comme si tu me l'expliquais à moi-même, c'est-à-dire à un enfant de 5 ans?
Un fonds souverain, ce que c'est, puis c'est, je vais juste, oublions Carney là, un instant, là, oui. D'autres pays qui étaient aux prises avec des surplus budgétaires ou monétaires.
Des vrais de vrais surplus, là.
Des vrais surplus, là. Se sont demandé, qu'est-ce que je fais avec ça? Des très bons exemples, c'est les pays du Golfe, là, exportaient des quantités phénoménales de pétrole puis de gaz, puis on le voit là, depuis quelques semaines, quelques mois avec le détroit d'Ormuz, là, mais tu sais, eux, ils ont une business, grosso modo, c'est qu'ils exploitent de l'énergie, puis... Tu sais, c'est des places, là, vous avez déjà vu, le Dubaï, les Émirats arabes unis, tu sais, ils sont 22 là, dans une tour, tu sais, il y a rien, tu sais, il y a rien à dépenser, grosso modo. Fait qu'il y avait comme d'immenses surplus dans leur cas de dollars US. Dans le cas norvégien, qui est le plus gros fonds souverain au monde, c'était des surplus liés aussi à l'énergie, liés à la royauté qui était perçue sur la production pétrolière. Ils se disaient, coudonc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, dans ces différents cas-là, Singapour est un autre exemple, ben on a pooler cet argent-là dans un fonds. On lui a donné un conseil d'administration, on lui a donné une équipe d'investissement, un peu comme une caisse de dépôt, mais dans le fond, caisse de dépôt, tu as des déposants, tu sais, tu as le régime des rentes, tu as la RQAP. Alors que là, c'est vraiment, l'argent, là, il vient directement des royautés ou des surplus de l'État, il est mis dans ce fonds-là. Puis le fonds, dans le fond, ailleurs, à l'international, il investit à l'extérieur du pays. Donc, quand on entend que, par exemple, Dubaï, là, ils achètent des compagnies américaines ou ils financent Elon Musk.
C'est avec ça.
C'est avec ça. C'est un fonds d'investissement qui est comme un peu contrôlé par le gouvernement, mais pour faire du rendement dans d'autres pays en faisant des placements. Ce que M. Carney nous dit, c'est qu'on va faire un fonds souverain. Mais là, souverain de quoi? Avec quel surplus? Tu sais, moi, quand il a annoncé ça, plutôt cette semaine, je pensais qu'il allait imposer une nouvelle taxe sur l'essence. Pas sur l'essence aux consommateurs, mais sur la production pétrolière. Okay, okay. Mettons, je sais pas, le 20 cents, le baril, là, tu sais, je dis n'importe quoi. Ça rentrerait dans un coffre, puis ultimement, on pourrait utiliser cet argent-là. On voit ça dans d'autres secteurs, soit dit en passant. Mettons, dans l'hôtellerie, là, tu pourrais imaginer tous les hôteliers de Québec qui disent hey, « moi, je suis prêt à payer 1% de plus là, de taxes. » Tu sais, l'hôtelier, là, qui, pour avoir, je sais pas, pour rénover une infrastructure touristique majeure. Là,
qui attire plus de monde.
M'assurer qu'il y ait du monde. Fait, je suis prêt, moi, à assumer une taxe de plus qui va être poulée de tous les hôteliers pour me donner une infrastructure touristique. Que c'est pas vrai qu'il y a un acteur privé qui va venir faire ça. Il faut mettre un petit peu... Fait que je pensais que c'était ça, le fonds souverain. Mais là, ce qu'on apprend, puis ce qu'on n'apprend pas vraiment, c'est que c'est 25 milliards qui va être mis au début. On sait pas d'où ça va venir. Est-ce que ça va venir du budget? Est-ce que ça va venir de la petite poche arrière de M. Carney? Puis là, il nous dit l'autre affaire, c'est qu'en fait, les gens, là, vous et moi, on va pouvoir mettre de l'argent là-dedans. Mais là,
on paye déjà des impôts.
Ouais, ben là.
Non, mais on ne va pas mettre de l'argent là-dedans comme tu mettrais dans un fonds mutuel ou comme tu mettrais en bourse pour générer des rendements. Mais là, quel rendement? Tu sais, je vais-tu avoir un siège sur le conseil d'administration, moi, pour décider? Tu sais, la démocratie, c'est une chose. Là, on vote aux 4 ans, mais si tu as un fonds d'investissement qui prenne mon argent, j'aimerais ça savoir, tu sais, comment il est alloué. Puis, c'est pas dit ça va être quoi la limite. Je veux dire, finalement, tu sais, c'est peut-être une affaire pour que 2-3 milliardaires canadiens poulent de l'argent là-dedans, bénéficient du upside sur les projets fédéraux, puis que vous puis moi, tu sais, on mène notre petit 100$ qui génère 4,5%, puis on est comme, ouais, waouh, c'est le fun, le fonds souverain. Mais, tu sais, on sait pas c'est quoi les règles. Tu sais, s'il pourrait y avoir une limite, je sais pas, moi, de 1000$ ou de 10 000$, là, OK, tout le monde, entre guillemets, peut mettre une partie de son épargne de retraite là-dedans. Est-ce qu'on peut utiliser notre REER pour mettre de l'argent dans le fonds souverain, notre CELI? Pour l'instant, on n'a strictement aucun détail. Donc, c'est une bonne idée. Le nom est catchy là, parce que justement, les Norvégiens ont bien fait ça.
Ouais.
Mais entre nous, ça n'a de souverain que le nom, cette patente à faire.
Mais j'aimerais qu'on parle un peu plus du cas norvégien parce que on va s'entendre, là, les Émirats Arabes Unis, c'est un autre paire de manches. Là, mais tu sais, en Norvège, est-ce que cet argent-là, d'une façon ou d'une autre, est retourné dans les poches des Norvégiens ou réinvesti concrètement?
Ben, oui, en fait, non. Ben, c'est leur modèle à eux, c'est comme notre Hydro-Québec ou notre SAQ, notre Loto-Québec. Eux, c'est un fonds d'investissement. Puis c'est dit, on va mettre de l'argent du oil and gas, là, du pétrole, là-dedans. Ils vont faire des investissements significatifs partout sur la planète dans des projets qui vont retourner un rendement, un peu comme notre caisse de dépôt, mettons. Puis il y a une partie de ça qui va être versée en dividende à l'État, donc qui va, dans le fond, enlever de la pression fiscale ou, tu sais, considérez-le comme vous voulez, mais qui va nous permettre d'avoir plus de services à partir de rendements faits sur des investissements étrangers. Donc oui, il y a un bénéfice qui est... Puis ultimement, ils sont assis, eux, sur 2 000 milliards de dollars, ce qui, en soi, là, c'est la taille de toute l'économie canadienne là, qu'ils ont dans un fonds, tu sais, quasiment un an de PIB canadien. Fait que c'est... Mais tu sais, eux, ça fait de nombreuses années là, qu'ils ont mis ça en place. Puis à chaque année, l'exploitation pétrolière rajoute de l'argent sur le top de la pile. Fait qu'ils deviennent un acteur de plus en plus influent. Ils peuvent jouer un petit peu dans toutes les plates-bandes. Ce qui donne un levier très intéressant en bon français, de soft power, parce que c'est pas juste l'argent. Après ça, c'est l'argent, ça vient avec... Tu sais, tu peux aller placer de l'argent dans tel pays, puis tu peux dire, hey, regarde comment je suis gentil, moi, le Norvégien, je t'ai donné 100 millions pour faire ton train, pour faire ton barrage. Hein? Ben oui, c'est ça, c'est de la diplomatie financière, puis ça, les Norvégiens sont excellents à faire ça.
J'imagine aussi que ça amène une certaine pérennité puis une certaine prévisibilité. T'sais, mettons que tu as une année de coup dur, peu importe. T'sais, mettons il y a une crise économique mondiale, ben toi, ça va te permettre d'avoir une certaine protection contre ça quand tu as un fonds de même.
Ben, puis c'est la principale critique qu'on pourrait faire à l'idée de M. Carney, c'est qu'en fait, lui, puis on connaît la situation financière du Canada, les Norvégiens ont mis de l'argent petit à petit dans un petit cochon qui a grandi, 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 puis là, ils sont assis sur un très gros cochon, puis comme tu dis, ça peut permettre d'atténuer les chocs puis les variations.
Ils ont été
Nous, ce
la
qu'on
fourmi de la
fait...
cigale et la fourmi.
Ben oui, là, nous, on est déjà dans une logique de déficit important, puis on dit, hey, on va comme emprunter 25 milliards pour partir de notre patente, mais ça reste, cet argent-là, on l'a pas, là. À moins, comme je dis, qu'il y ait une nouvelle source de revenus qui m'a pas été ou qui nous a pas été communiquée, ça reste, ça va être de l'argent qui va être emprunté à quelque part, soit au consommateur. Tu sais, comme je dis, on va peut-être pouvoir investir nous-mêmes, là. Fait que ça se peut que cet emprunt-là se fasse de nous, là, c'est-à-dire qu'on de manière consciente et consentante, on met de l'argent là-dedans contre promesse d'un rendement, mais ça reste que ça va être de l'argent emprunté et pas de l'épargne à long terme.
On a beaucoup vanté les aptitudes financières de Mark Carney depuis un an. Est-ce que ça t'étonne qu'on n'ait pas plus de détails puis que ça reste encore occulte un peu la façon de procéder après un énoncé économique?
Ouais, moi, je ne suis pas de ces détracteurs à Mark Carney, je vous avouerai. Je pense, puis je dis pas ça par fidélité ou admiration libérale, je pense que Mark Carney est probablement un des premiers ministres les plus intelligents qu'on a eu, genre, de l'histoire du Canada.
Ah
Puis
oui.
j'ai l'impression que dans sa tête, le master plan est très clair.
Il n'y a pas d'improvisation.
OK, il n'a pas inventé ça 48 heures avant, là, mettons.
Non, puis je dis ça, comme je dis, je suis pas là en train de l'adouber, là, puis de me mettre à genoux.
Ah,
là,
j'espère
puis ça,
que tu as raison. J'espère que tu as raison. On sent tellement d'improvisation de nos politiciens, puis de nos gouvernements. Puis quand j'ai entendu parler de fonds souverains, Francis, je connais peut-être rien en économie, mais j'ai quand même vu neiger un peu en politique, là. Puis dès qu'on a un nouveau terme à la mode, un nouveau buzzword, je me dis, bon, c'est quoi cette bebelle-là encore?
Qu'est-ce qu'on essaie de détourner comme attention?
Ben, en fait, écoute, j'aurais peut-être tort. Je pense quand même, puis là, tu sais, on va avoir les modalités là, tôt ou tard, là, parce que justement, s'il veut nous attirer, nous, comme épargnants, il va falloir qu'il nous dise c'est quoi le deal,
Ben
c'est
oui.
5 %, 10 %. Puis tu sais, honnêtement, si tu mets de l'argent dans un fonds d'investissement, là, les amis, là, moi, là, tu sais, nos placements, là, tu sais, passez vos REER, là, ça se peut que ça perde de l'argent, là, right? Comme ça se peut que ton fonds mutuel, ça se peut que ton action de Tesla, là, tu sais, tout peut arriver. Je veux dire, c'est le principe. Là, ce que j'essaie de comprendre, c'est que maintenant, je place de l'argent dans le fonds souverain de Mark Carney, là, puis que ça se pète la gueule, puis que ça perd 10 %. Tu sais, c'est comme l'État qui va m'avoir comme un peu fourré de 10 %. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est particulier. Tu comprends? C'est assez sensible. Il garantit-tu le capital là, avec ça? Tu sais, ça vient avec plein d'implications. Mais là, je vais en venir, pour terminer, mais je me dis comme si c'est moitié bien fait, puis qu'effectivement, on trouve une façon d'y mettre de l'argent, un peu comme le fonds des générations, soit dit en passant, qui. Non, non, mais qui est une très bonne idée.
De base, oui.
Non, non, mais puis comme toutes ces années plus tard, on est vraiment content de l'avoir, le fonds des générations, parce qu'on poule de l'argent là-dedans, ça génère plus de rendement que l'inflation, puis ça nous permet de vivre un. Tu sais, dans le fond, le fonds des générations, c'est un genre de fonds souverain, là, tu sais, qui n'est pas
avec
souverain
un
partout.
Autre, avec un autre nom.
Ben, c'est ça, mais fait que je me dis, mettons, M. Carney qui lance ça cette année, là, vous me réinviterez dans une chronique dans 10 ans, là, puis on, tu sais, qu'on va être assis. Non, mais tu sais, qu'on va être assis sur 1 000 milliards là, de cet héritage-là de Mark Carney, on va être content de l'avoir. Fait que comme je dis, je suis assez convaincu qu'il y a un master plan. Des fois, je me demande, tu sais, il a fait une vidéo là, il y a 10 jours, là, Forward Guidance, là, un peu comme un banquier, là, où ce qu'il nous dit ce qui s'en vient. Mais tu sais, puis c'est ingrat la job de politicien parce qu'ultimement, je suis sûr que Mark Carney, s'il était dans une entreprise, il nous dirait le prochain trimestre, ça va être de même. Le prochain trimestre, ça va être de la merde, puis on va perdre 10 % de nos clients. Non, mais en tout cas, si tu es dans une entreprise, tu as l'obligation fiduciaire d'informer tes investisseurs. Là. Si le prochain trimestre de Netflix va être vraiment mauvais, quand le PDG de Netflix prend la parole, son forward guidance, c'est je vais perdre 10 % de mes clients, puis dadaï, dadada. Monsieur Carney, il peut pas faire ça parce que, coudon, Donald Trump, il l'écoute, puis Jameson Greer, il l'écoute, puis tout le monde l'écoute. Fait qu'il dit, hey, les amis, ça va bien aller. T'sais, son forward guidance, il est comme un peu. Mais je suis sûr que derrière, il y a quand même une idée assez claire de ce qui s'en vient pour le Canada. Fait que je suis pas malheureux d'avoir ce banquier-là pour piloter l'économie canadienne.
J'en rêve déjà la chronique dans 10 ans où on va être assis sur un gros, gros cochon. Là, je vais pouvoir te donner raison. Francis, merci
on va être
beaucoup.
Un méchoui de Gravel.
Oui!
On va faire un méchoui.
De l'argent puis de la bouffe pour tout le monde. Francis Gosselin, merci beaucoup.
Salut.
Salut, Francis Gosselin, docteur en économie. Puis, ben franchement, j'aimerais ça. être dépourvu de cynisme puis croire en ces choses-là, mais si jamais on réussit à s'enrichir, puis qu'il y a vraiment un master plan financier derrière la façade de Mark Carney, je suis le premier à être bien content de ça.
J'ai hâte de voir c'est quoi la mine qu'il a découvert, là.
Ben oui, exact. Il faut retourner dans la circulation, Mathias.
Oui, juste vous dire, il y a un accident qui s'est malheureusement rajouté puis qui crée beaucoup de problèmes. Là, c'est sur Capitale en direction est à hauteur de Pierre-Bertrand, la voie de gauche qui est présentement bloquée en raison d'un accident. Donc, c'est excessivement difficile là, présentement sur Capitale dans cette direction-là. C'est pare-choc à pare-choc entre Pierre-Bertrand jusqu'à Henri IV et ça remonte sur Robert Bourassa en direction nord justement pour prendre Capitale. Présentement, c'est jusqu'à boulevard Charest environ qu'on sent un ralentissement.
Courte pause, on revient. Vous êtes à boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. 21 degrés à Québec. Pas de suite, pas de suite. C'est la stagiaire qui essaie de rentrer en studio. Je suis en train de faire un live. C'est des choses que tu vas apprendre tranquillement. Là. C'est pas... Non, mais c'est pas grave, là, je veux dire. C'est parce qu'un moment donné, elle va... Non, mais tu sais, on essaye de rester professionnel. Là. Je sais que c'est pas facile.
Terrible.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Ben non.
Quoi? Ah, c'est ça. J'avais de quoi vous dire. Excusez, j'ai été dérangé. C'est parce que normalement, quand on est étudiant en radio, on sait que quand quelqu'un se prépare à faire un live, on reste soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Mais là, elle a carrément transité alors que je prenais mon premier souffle.
Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Denis dans la dernière année et demie, là, mais il était le genre de gars qui rentrait entre la peinture puis les murs quand il y avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mettons, même Mathias, tu dois te souvenir de tes premières journées de stage. Là, Denis, il s'amuse avec les stagiaires comme s'il y avait un laser puis des chats qui pouvaient jouer avec sur le mur.
Ben là, c'est que vous les encadrez tellement et vous les chouchoutez tellement qu'elles ne sont pas prêtes à faire face à la vraie vie et aux vrais défis. Fait que je me dois d'être le méchant de service.
Tu veux les brasser?
Absolument. Oui, c'est ça.
Fait que tu t'es fait un petit groupe avec Max Larouche puis vous les brassez ensemble?
Je sais pas ce que Max fait de son côté puis comment il veut les brasser, mais on n'est pas de la même génération puis c'est pas des choses qui m'intéressent nécessairement.
Mais t'es jaloux, en fait.
Jaloux de qui, Josette?
Jaloux de moi, que je me fasse chouchouter, t'es jaloux? J'aurais
aimé ça.
C'est parce que Véro, le problème, c'est quand les stagiaires sont là, tu donnes trop d'attention aux stagiaires, puis pas assez à Denis.
Ah, c'est ça, c'est de la jalousie.
Moi, quand j'ai fait mon stage, là, personne s'occupait de moi. Il a fallu que je fasse mon chemin moi-même. Ici, vous avez des cours, des séminaires. Là, on a un meeting avec Audrey. Là, on a un meeting avec Véro. Puis là, on a une formation avec Max qui se prend pour un prof du CRTQ.
Mais veux-tu
what the
que
fuck?
Je te joue du violon tant qu'à ça?
Ben non, j'en joue en masse. Penses-tu que j'ai besoin de moi? Penses-tu que j'ai besoin de toi pour jouer du violon?
Si!
Hey, elle sort-tu que je fasse mon live?
Mais petit graveur!
Moi, je les aime!
C'est quoi? Rappelle-moi ton nom.
Je sais pas, tu peux me donner le nom que tu veux.
Non, c'est Ariane.
Non, ça c'est Noémie.
Noémie, t'as-tu un char?
Oui, j'ai une Honda Civic, comme la bonne Saguenayenne que je suis.
Super. Veux-tu te payer ton gaz pour repartir à Jonquière?
Ah, franchement.
Ouais.
Quoi? Je suis Nord, elle, comme toi.
Non, hey, on vient du même bled, Saint-Fulgence.
OK, super. Dis pas ça à personne. Il fait chaud en studio? Fait-tu chaud dans votre bout? Avez-vous des petits problèmes de climatisation? Merci, Ariane. C'est peut-être le temps de régler ça une fois pour toutes grâce à Enviro Confort qui vous propose des remises manufacturières sur les grandes marques, également du financement sans intérêt pendant 6 mois avec Finance It. Vous chauffez encore au mazout? Oh, ouais. C'est le temps de passer à l'électrique. Laissez pas passer cette occasion avec les programmes qui se terminent. On a la qualité des équipements, on a la qualité du service après-vente, Enviro Confort est votre source de confort pour toutes les saisons de l'année. Enviro Confort, le choix du consommateur depuis 6 ans en chauffage et climatisation. Tous les détails au enviroconfort.com. Et toutes mes excuses, Enviro Confort, j'ai essayé de faire ça de la façon la plus professionnelle possible, mais ne vous en faites pas, ce sera mentionné dans le stage du côté du département d'art et technologie des médias de Jonquière. On revient.
La zone spectacle extérieur.